La signature de l'accord cadre entre les États-Unis et l'Iran a provoqué des réactions très contrastées à travers le monde. Les Européens se félicitent de ce mémorandum d'entente. Pendant ce temps-là, les Israéliens, eux, s'en inquiètent. On en parle ce matin avec Daniel Haber. Il est, pour une fois, au micro de Jonathan Serrero.
Daniel Haber, bonjour.
Bonjour Jonathan et bonjour chers amis.
Il y a donc eu l'annonce de cet accord cadre la semaine dernière, une annonce pour le moins surprenante au regard des déclarations des uns des autres, notamment du président des États-Unis Donald Trump, qui a soufflé le chaud et le froid pendant près de 3 mois depuis l'annonce du cessez-le-feu au mois d'avril dernier. Quelle analyse vous en faites de cet accord? Et j'ai une question un peu plus personnelle. Comment se fait-il que Donald Trump a changé totalement d'avis sur cette question de l'accord, même s'il y avait des annonces depuis déjà plusieurs mois sur l'envie de Donald Trump de parvenir à un accord avec l'Iran?
Bon, à mon avis, puisque c'est la question personnelle qui vous intéresse, il a jamais changé d'avis. C'est-à-dire que, au fond, dès qu'après les premières frappes, on élimine la tête dirigeante de l'Iran, on bombarde 15 000 ou 16 000 sites et le régime ne tombe pas. Et à ce moment-là, Trump a compris qu'il fallait s'en sortir. Et je trouve que Israël a eu beaucoup de chance. J'y reviendrai, que ça dure encore 4 mois, 3-4 mois, ce qui lui a donné le temps de beaucoup avancer sur la question du Hezbollah, parce qu'Israël s'est immédiatement concentré sur le Hezbollah et plus sur l'Iran. Pour revenir à cet accord cadre et tous ces commentaires, ça fait plusieurs semaines qu'on en parle ici au micro de conversation et on a toujours dit la même chose. Un, il y aura un accord, il n'y aura pas de reprise de conflit. Donc il y a une vision très très claire, même si les paroles peuvent changer. Deuxièmement, l'accord sera mauvais. Et évidemment, il n'est pas très bon. Et troisièmement, le monde entier, à quelques exceptions près, l'accueillera avec sinon joie, mais avec ce que j'appelais un lâche soulagement. C'est pas Munich en 1938, mais ça ressemble à ça. C'est bon, voilà, on a éloigné non pas le spectre d'une guerre mondiale, mais le spectre d'une crise économique mondiale. Et ça, ça faisait peur quand même à des milliards de gens dans le monde entier. Donc, c'est un petit peu ça qu'on peut dire. Et quand on regarde les bourses mondiales, on voit qu'elle salue l'accord. Et donc voilà. Alors maintenant, oui, je pense que cet accord était inévitable. Et c'est vrai que dans la négociation, l'Iran était en position de force. Pourquoi est-ce que l'accord était inévitable? Parce que très vite, ce conflit est devenu international avec la fermeture du détroit d'Ormuz. Du coup, les Américains étaient sous la pression du monde entier. Et non pas seulement de la guerre avec l'Iran. Le pari de faire chuter le régime, moi j'ai entendu récemment l'ancien patron du Mossad, Yossi Cohen, dire « c'était jamais dans notre idée, nous Israéliens, de faire tomber le régime en décapitant le régime ». Vous voyez, je découvre ça aussi. Donc, c'était inévitable dans la mesure où on ratait le pari du premier coup. Et puis l'Iran est en position de force parce que elle a montré que elle a sauvé le régime et que elle avait une capacité de dissuasion suffisante pour que devant Trump se pose uniquement une seule question: qui tout double. Double, ça veut dire renforcer la présence militaire, ça veut dire aller devant le Congrès, devant le Sénat pour déclarer une guerre. Tout ça, c'est strictement impossible. Quand on connaît l'état de l'opinion publique américaine, du Congrès américain, des oppositions internes à Trump, comme Vance, qui n'est pas du tout d'accord avec lui, comme l'armée, l'armée qui dit bon, je veux bien faire le minimum, hein, envoyer des porte-avions, etc. L'armée a fait ce qu'elle a, l'armée américaine a fait ce qu'elle a dû, mais pas plus. Hein, et en tout cas, pas de troupes au sol, c'est même pas pensable. Donc à partir du moment où le kit n'est pas possible, je veux dire le double n'est pas possible, il faut quitter. Et donc il fallait trouver un accord. Cet accord, il est forcément mauvais.
On a l'impression, Daniel, que depuis la visite de Donald Trump en Chine, tout a changé. Est-ce que cette visite en Chine a été une sorte de game changer dans ce qui se passe actuellement?
Oui et non. Si vous voulez, la Chine, elle est présente au Moyen-Orient depuis 40 ans, sans qu'on le voit. Et pour la Chine, et moi j'y vais souvent et je travaille avec les Chinois, l'approvisionnement en pétrole du Golfe, c'est vital. C'est vital. Et donc, ce qui se passe au Moyen-Orient, c'est absolument essentiel pour les Chinois depuis 40 ans. Ce qu'ils ont fait, c'est diversifier leurs achats. Parce qu'il faut sécuriser, et sécuriser veut dire diversifier. Du coup, leur politique extérieure a été, je suis l'ami de tout le monde, y compris d'Israël. Y compris d'Israël. En ce moment, vous avez un ambassadeur de Chine en Israël qui n'arrête pas de recevoir tout le monde en disant, nous sommes vos amis. C'est assez extraordinaire. Donc, si vous voulez, la Chine, elle est là. Depuis longtemps, elle a diversifié, elle vend énormément de choses. La Chine est le vendeur de tout, des biens de consommation, des machines, des infrastructures, y compris en Israël. Mais ce qui a changé, ça c'est vrai, c'est pas le 14 mai, c'est avec l'attaque de Poutine sur l'Ukraine en février 2022, quelques jours après que les deux pays Chine et Russie se soient déclarés une amitié sans limite, c'est que avec cette attaque et puis l'attaque du Hamas l'année suivante, la Chine s'est trouvée presque automatiquement aux côtés de la Russie et de la Chine. Elle pouvait pas faire autrement parce qu'elle était déjà très proche d'elle et elle vit une confrontation avec les Américains qui a été déclenchée par les Américains, par Obama, il y a une dizaine d'années, en disant la Chine n'est plus notre partenaire, n'est plus notre horizon de coopération, mais maintenant on confronte, on se méfie de la Chine, c'est notre rival principal. Et donc la Chine n'a pas d'autre choix que d'utiliser et les Russes et les Iraniens comme instrument d'aide à la confrontation avec les États-Unis. Donc un pays comme Israël est d'une certaine manière une victime collatérale de la confrontation entre les États-Unis et la Chine. Alors, le 14 mai, on l'a vu, hein, ça s'était très bien passé entre les deux hommes. On sait pas, on sait, oui, mais parce que c'est important de voir ça. C'est la seule chose qu'on puisse voir. Et ça voulait dire que Trump et Xi Jinping se sont parlé évidemment du Moyen-Orient et que Xi Jinping a dit il faut tout faire pour libérer le détroit d'Ormuz. Parce que le seul problème pour les Chinois en ce moment dans le conflit, c'est pas le nucléaire parce que pour les Chinois il y a le temps devant soi. Parce que au fond les sites nucléaires ont été détruits. On a du temps devant nous avant de négocier. Mais l'immédiat, c'est éviter la crise mondiale. Et la Chine n'est pas en très bonne posture économique. Il faut absolument qu'elle l'évite. Et donc, pour l'éviter, il faut trouver une solution rapide. Et ils ont mis la main à la pâte. Et ça s'est vu. L'emploi même du mot MOU, Memorandum of Understanding, c'est quelque chose qui est utilisé. Alors, c'est anglo-saxon, hein, c'est pas les Chinois qui l'ont inventé, mais c'est les Chinois qui l'utilisent le plus. Quand vous allez en Chine, vous signez tout le temps des MOU à tire-larigot. Et deuxièmement, l'utilisation du Pakistan. Ça, c'est le signal fort. On sait que le Pakistan a des liens extrêmement étroits en partenariat économique avec la Chine. On n'imagine même pas. Mais en même temps, il est ami des Iraniens, le Pakistan. Il est proche des Américains. Donc, c'est vraiment le modérateur idéal. Et quand j'ai entendu dire qu'on pourrait appeler les accords qu'on vient de signer, les accords d'Islamabad, même si ça se signe en Suisse ou à Versailles, je pense que le Pakistan, ayant été au premier rang, ça signifie que la Chine a été au premier rang. Et d'ailleurs, Trump a remercié les Chinois et beaucoup de gens qui connaissent le dessous des cartes ont remercié les Chinois en disant vous avez été extrêmement opérationnel. Donc je crois que c'est une bonne nouvelle dans l'assaut de mauvaises nouvelles que nous vivons, que la Chine elle est active pour limiter les conflits parce qu'elle en est la première victime. Et donc, le détroit d'Ormuz a joué un petit peu, ça a été une arme fatale, dit-on, pour l'Iran, mais en même temps, ça a forcé les Chinois à dire, faut qu'on bouge parce qu'on peut pas laisser comme ça.
Daniel, Dernière question. Et Israël dans tout ça, Israël se retrouve quelque peu acculé, notamment au regard de la participation du Qatar dans ces discussions, du Pakistan, deux pays avec qui Israël n'entretient pas, entre guillemets, des relations diplomatiques. Israël perd aussi des soldats au sud Liban. Une question, pourquoi aujourd'hui Israël proteste après cet accord?
Alors, les protestations sont pas des protestations officielles. Je vais vous dire, on est déjà en campagne électorale en Israël, et donc tous les opposants de Netanyahou profitent de ce qui apparaît comme un échec américain et donc un échec qui est de Bibi, qui a été proche de Trump, pour critiquer à la fois Bibi et donc Trump. Mais dans la réalité, Israël a bénéficié de plusieurs choses. D'abord, l'affaiblissement extraordinaire de l'Iran. Privé de ses leaders, avec une grande partie, on ne connaît pas le pourcentage, mais de ses capacités non seulement militaires, mais industrielles pour refabriquer. Donc l'Iran est touché, le programme nucléaire est touché, est repoussé de plusieurs mois, voire de plusieurs années. Donc ça, c'est engrangé. Et surtout, depuis 4 mois, Israël a pu se concentrer sur les Hezbollah. Et donc Israël alors, ça, vous avez raison, ça fait des morts, hein, parce que la guerre, ça fait des morts, mais les gains d'Israël au sud Liban sont énormes, jamais été aussi positifs dans toute l'histoire des luttes avec le Hezbollah. Israël aurait bien voulu continuer. Peut-être qu'elle le fera. Il y a une limite, c'est Beyrouth pour l'instant, mais bon, on peut vivre sans ça. Et donc, je pense qu'en réalité, personne n'a envie en Israël de faire d'une rupture avec les Américains. Si elle vient, cette rupture, c'est dans plusieurs années, il faut s'y préparer. Donc, je pense qu'aujourd'hui, Israël, même si elle ne le dit pas, s'en sort plutôt bien. On analysera peut-être ça ensemble dans une autre conversation. Mais si on fait le bilan, on le fera, et puis faut attendre un peu la fin des négociations pour savoir exactement ce qu'il en sera. Et là, on pourra faire un bilan et on verra qu'il n'est pas si mauvais pour Israël en réalité.
Alors, on se retrouvera pas dans 2 mois, mais la semaine prochaine, sûrement peut-être
D'accord.
avec Blaise. Et je vous remercie, Daniel, d'avoir répondu à nos questions.